Radio Galère 4.4 FM Marseillaise. L'histoire continue et permanente, une émission proposée et réalisée par Éric Lebreu. Aujourd'hui, les accords d'Oslo, une vision critique de Bruno Étienne. Deuxième partie, nature de l'État palestinien, l'effacement de la France dans le nouvel ordre mondial et le rôle d'Abdelkader dans l'achat des terres en Palestine. Bruno Étienne est un anthropologue, sociologue et politologue français né en 1937 et décédé en 2009. Spécialiste de l'Algérie, de l'islam et de l'anthropologie du fait religieux, il est une des premiers politologues à s'intéresser à l'islam comme fait politique. En 1980, il dirige le centre de recherche et d'études des sociétés méditerranéennes d'Aix-en-Provence jusqu'en 1985. Professeur de sciences politiques, il intègre l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, fondateur et directeur jusqu'en 2006 de l'Observatoire du religieux dans le cadre de l'Université d'Aix-en-Provence. Il a été professeur invité aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, en Turquie, en Syrie, en Israël-Palestine, aux États-Unis et au Japon. Inventeur de l'expression « Islam de France », Bruno Étienne est l'inspirateur du Conseil français de culte musulman. Il est à l'origine d'une véritable école de recherche à Aix-en-Provence. Il a marqué par son engagement plusieurs générations d'étudiants aixois. En 1990, il signe l'appel des 75 contre la guerre du Golfe. L'entretien avec Bruno Étienne avait été réalisé en octobre 1993 avec Sami Beji et Olivier Morel, juste après la signature des accords d'Oslo à Washington le 15 septembre 1993 par Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'OLP, et Bill Clinton, président des États-Unis. L'entretien a donc été réalisé à un moment où bon nombre de personnes croyaient à la fin définitive du conflit israélo-palestinien, bien avant l'assassinat, le 4 novembre 1995, d'Yitzhak Rabin par Yigal Amir, un extrémiste juif religieux, étudiant en droit et opposé aux accords d'Oslo. Dans cet entretien, qui sera diffusé en deux parties, Bruno Étienne expose une vision critique des accords d'Oslo et s'interroge sur la complexité de la société palestinienne et sur la situation du Moyen-Orient au lendemain des accords d'Oslo, c'est-à-dire en 1993. Cet entretien avait été diffusé une première fois en octobre 1993 sur Radio Galère et sur Fréquence Paris Pluriel. Je précise que les propos de Bruno Étienne sont diffusés à titre de document et que chaque auditeur est libre d'approuver ou désapprouver ou nuancer son argumentation. Ils sont ici pour enrichir le débat sur la question très complexe israélo-palestinienne, précisant que cet entretien a été réalisé en 1993.
Alors c'est quel type d'État il va y avoir? Quand vous dites que le futur État palestinien ne ressemblera pas à un État hégélien, c'est à quel type d'État ça peut correspondre, ça?
Ce que je veux dire, c'est pas, je ne sais pas, moi je suis pas Madame Soleil. Ce que je sais, ce que j'ai constaté, c'est que les Palestiniens de l'intérieur, et je ne joue pas le jeu de l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur, je dis simplement que les apparatchiks de l'OLP vont pas rentrer facilement. Ça c'est évident. Je dis simplement, parce que ça ne s'était pas produit en Algérie, l'Algérie était beaucoup plus bouclée que les territoires dits occupés ou administrés par l'armée israélienne. Les Palestiniens qui ont aujourd'hui 30 ans ont depuis quinzaine d'années pris l'habitude d'une gestion complètement autonome d'un certain type d'affaires. Alors, je vais vous donner des exemples si vous voulez comprendre, parce que je ne sais pas ce que sera cet État. Je sais simplement que l'autogestion, ça existe. Alors, dans les, je ne parle pas simplement des camps, parce que les camps sont complètement quadrillés. Et pas par Hamas, c'est pas vrai. Hein, il y a le Fatah, il y a Hamas, ça dépend. Bon, je prends deux exemples. La Gaza, Chati, c'est plutôt Fatah. Dar el Belair, c'est plutôt Hamas, avec des nuances. Khan Younis, c'est encore autre chose. Mais comment c'est quadrillé? D'abord, ils ont créé des comités de quartier. Ça veut dire qu'ils doublent les municipalités israéliennes qui n'existent plus. À Gaza, par exemple, il n'y a plus d'administration, ni arabe, ni ottomane, ni palestinienne, ni israélienne. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il faut voir comment c'est. Alors, ils ont fait par quartier des comités de quartier. Ensuite, ils ont fait les priorités. Services sanitaires, centres sociaux, à mon avis, quelques hôpitaux clandestins. Et alors, j'ai visité des fermes modèles dans des ruines, avec des bœufs d'élevage qu'on se croirait dans le Charolais. construit des hospices pour vieillards, enfin, tout un système emboîté, et ce que personne ne veut comprendre, y compris en collaboration avec les privés israéliens. Par exemple, dans l'agriculture, il ne faut pas raconter de conneries, la moitié de la production palestinienne est entre les mains de juifs marocains, qui sont, vous le savez, un gros groupe de pression en Israël, qui ont 70 000 à 80 ouvriers palestiniens, qui vont chercher leurs mecs au checkpoint le matin avec les cartes électroniques, et les Palestiniens disent, on veut continuer à bénéficier de passer par Israël pour les productions d'agrumes et de légumes vers les communautés européennes. Alors si on nous donne un statut d'État privilégié vers les communautés européennes, eh bien, nous on s'en fout de collaborer avec Israël. Donc attention, c'est pas avec l'État sioniste, c'est qu'il y a eu toute une interpénétration de coopératives. Je prends le dernier exemple, alors là où on voit apparaître l'islam, à Dar el-Balah par exemple, vous avez un grand immeuble, magnifique, rez-de-chaussée dispensaire, mosquée, premier étage crèche, garderie d'enfants, deuxième étage école, ordinateur, Macintosh complètement équipé, et supérieur les associations, en haut le basket, la terrasse, et on surveille tout, les Israéliens pénètrent jamais. Donnez le fric, zakat. Alors, bon, moi je sais que le fric il peut venir d'Arabie Saoudite, ou du Koweït, ou de l'Association Islamique Mondiale, ou de l'Organisation de la Conférence Islamique, mais c'est pas Hamas, ce sont des associations islamiques qui ont complètement saisi la société civile, alors que là-dessus se greffent des intentions politiques, à qui on peut le reprocher?
Justement, à ces comités de quartier, etc., par rapport à la bureaucratie de l'OLP. Voilà. Alors, comment remettre en configuration le jeu de leur rapport, quoi?
Ça, personne ne sait comment ça va se passer. Moi, jusqu'à ce que j'aille vraiment sur place, il y avait 10 ans que j'étais pas allé. Moi, j'avais lu que ce que Le Grain avait écrit, plutôt sur les associations islamiques. Mais le retour de Hosseini, il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai été frappé par quelque chose d'extraordinaire en Cisjordanie. C'est la jeunesse des cadres supérieurs que j'ai vus. C'est-à-dire qu'il faut vous compreniez que dans ma génération, il y a eu une sorte de, oui j'allais dire de honte, on n'allait pas là-bas par principe. Et tout le monde a oublié qu'il y avait des gens sur place. Alors, il ne faut pas polariser sur les grandes familles. Il y a les Hosseini, bon moi je peux dire effectivement que j'ai été invité chez un collègue dans une vieille maison, manifestement de famille, où il y avait la photo de son papa avec Oum Koulsoum en 1926, donc ils y étaient déjà. C'est vrai que ça existe la bourgeoisie là-bas, mais qui sont ces enfants de bourgeois? Et c'est là où il y a eu un changement qualitatif, même si on reparle des Hosseini. Actuellement, le niveau intellectuel, professionnel, médical, engineering, universitaire des Palestiniens est le plus haut du monde arabe. Ça, c'est un changement qualitatif qui n'a rien à voir avec les vieilles familles. Sauf que peut-être les vieilles familles, en ayant marre des apparatchiks, ont bien placé leurs enfants dans leurs études. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme nouvelle alliance? Alors là, moi, je suis un vieux, vieil anard. Faux alliés, mais vraie classe. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Je rappelle une de mes thèses préférées. Comme dans ces pays-là reste la singularité, les belles-mères veillent, eh bien les vieilles classes s'allieront aux nouveaux ingénieurs et par le système matrimonial, on va créer une nouvelle bourgeoisie d'affaires et d'État, avec la nuance que l'Algérie a tout de suite construit un État jacobin bouclé, alors que là, on va vers un État mou. Et j'en suis très heureux.
Les rapports symboliques entre les négociations, etc., l'influence que ça peut avoir sur le dialogue judéo-arabe ici en France, l'interculturalité à Marseille, etc.
Alors, une fois de plus, depuis la guerre du Golfe, on se rend compte à quel point la France est absente de toutes ces choses-là. Je crois que nos chers compatriotes, surtout ceux qui n'ont pas lu ce que j'ai écrit sur la guerre du Golfe, parce qu'il y avait le consensus à l'époque et que ce n'était pas la mode, n'ont pas compris que dans le nouvel ordre mondial, les choses sont maintenant très clairement balisées. Il y a les hégémonistes, ça a toujours existé, mais qui sont maintenant un peu moins nombreux. Et puis la France, qui n'est plus rien, à peu de choses près, qui a même réussi à perdre la stratégie qui était possible avec l'Italie et l'Espagne et l'Afrique du Nord, qui s'appelait le Conseil de sécurité en Méditerranée, c'est-à-dire 5+1, etc. Bon, alors, la France est donc résolument absente, je veux dire, que le président de la République, et ce gouvernement d'ailleurs, pas plus que les socialistes avant, donc on qui n'était plus dans la course pour un certain nombre de choses. Or c'est un peu dommage parce que nous avons le pain et le couteau pour faire un certain nombre de choses, et là, si j'ose m'exprimer ainsi, Dieu merci, on va réussir à contourner un petit peu, vous allez voir comment, le fait que nous ne soyons plus de grande puissance. Alors les négociations, d'une part, moi je voudrais rappeler, bien que cela paraisse une surprise à tout le monde, que les négociations entre Palestiniens et Israéliens ont lieu en France depuis des années et des années, et qu'on est quelques-uns à pouvoir le dire, mais Dieu sait que moi j'ai pas fait grand-chose, mais par exemple, les universités françaises ont signé des accords avec les 7 universités palestiniennes, quel que soit le gouvernement. Je dois dire d'ailleurs que les gouvernements successifs ont rempli leur contrat sur ce chapitre-là, ça c'est un premier point, et donc l'université sur ce plan-là s'est plutôt bien comportée. Deuxièmement, que nous avons un certain nombre d'amis que certains connaissent, chez lesquels il y avait des réunions entre Israéliens et Palestiniens depuis fort longtemps, y compris dans la région à Aix. Bah, moi je peux dire par exemple que chez Jean Lacouture à Roussillon, j'ai toujours rencontré des gens des deux bords qui se parlaient aimablement et qui ont préparé la suite. Ensuite, des revues comme la Revue de l'Orient ou la Revue d'études palestiniennes étaient vivées ici tranquillement. Des gens comme certains Libanais, mais y compris certains exois libanais. Bon, je veux dire, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Il y avait des contacts des deux côtés. À Aix en particulier, à l'IREMAM, on a reçu des professeurs palestiniens, on avait des professeurs israéliens et on a fait travailler tous ces gens ensemble. Pourquoi alors avons-nous eu ces difficultés? J'ai été un peu sévère, je dis parce que le PS, pour des raisons complètement psychopathologiques, était sur des positions très en retrait par rapport, même pas à la gauche israélienne, par rapport à la droite israélienne. On était devant ce phénomène extraordinaire, mais qu'on trouve déjà dans l'histoire, puisque c'est la gauche française qui a fait la conquête de l'Algérie et qui a fait le Liban multiconfessionnel, donc c'est une tradition. On était face à un parti socialiste qui avait des positions plus radicales que le Likoud sur un certain nombre de problèmes. Alors, électorat juif, bon, ça c'est un gros problème. J'ai le regret de dire que c'est pas parce que M. Le Pen parle du lobby juif qu'on n'est pas en droit, en tant que politologue, de poser la question du lobby juif. Et moi je maintiens, et je le dis, et je l'ai écrit, donc je le maintiens.
Est-ce qu'on peut parler plutôt de lobby sioniste que lobby juif?
Non, justement, parce que moi j'appelle sioniste des gens qui, lucidement, vont en Israël. Moi, si j'étais juif, je serais en Israël. Je suis désolé, c'est cohérent. C'est tout à fait. Si on est dans la logique du processus de demain à Jérusalem, non, je parle du lobby juif qui se dédouane de son non-sionisme par de la propagande ou du fric. Mais c'est pas parce que un raciste antisémite notoire a posé le problème du lobby que ce lobbying n'existe pas. Et on était devant ce paradoxe absolument extraordinaire qu'au lieu de faire servir. Et là, on vient à la question qui m'a été posée. Cette chance extraordinaire que nous avons, en particulier à Marseille, des juifs safaradim, des beurs, des pieds noirs, et Marseille qui réussit le tour de force de prendre tous les marchés arabes. Alors que j'ai expliqué moi-même tout à l'heure qu'il y a 150 ingénieurs israéliens au Maroc. Alors là, il va se passer quelque chose. J'étais vendredi dernier à l'inauguration de l'Institut du développement de la Chambre de commerce de Marseille sur le bassin méditerranéen. J'ai eu la stupéfaction de voir arriver le maire de Marseille. Il y avait 150 entrepreneurs de tout pays, comme dans la chanson. Et tout d'un coup, on découvre qu'à Marseille, il y a des juifs, des pieds noirs, des beurs, et que ça va servir à quelque chose. Et tout d'un coup, on découvre que si Gaza devient une zone internationale, il y a du fric à faire et du beefsteak à cachir et halal à fonctionner. Eh bien, tant mieux. Je veux dire que là, on est devant un changement dans l'opinion publique qui est fabuleux. Comme je l'ai déjà expliqué, pendant la guerre du Golfe, les juifs, les musulmans et les arabes, ou moi, je ne sais plus comment on peut dire, ont bien géré la crise. Il n'y a pas eu de paire de gifles, mais les radios locales et les communautés ont bien fonctionné au point que je peux vous raconter une anecdote étatique. J'avais demandé à un ministre de donner la Légion d'honneur au rabbin Waknin et à notre ami Bariki, parce que, au pire moment, c'est-à-dire le patron de Radio Gazelle, au pire moment de la guerre du Golfe, ils ont fait des trucs ensemble le soir, vraiment, la synagogue et un certain nombre d'associations de jeunes de la deuxième génération. Bon, sur le plan du business, c'est évident que la population que nous avons, nous, ici, peut favoriser une partie du commerce qui ne manquera pas de riper vers les communautés européennes. Mais je reviens, difficulté. D'abord, la France est officiellement absente. Ensuite, les communautés européennes sont complètement absentes. Or, si je suis parti de l'exemple universitaire, c'est parce que M. Mitterrand, et moi j'en suis très heureux, a promis 100 bourses pour que nous participions à la constitution des nouveaux cadres du futur État palestinien. Donc, j'espère que cette promesse sera tenue, mais c'est pas avec 100 bourses qu'on va développer la Cisjordanie. Il faut aussi que les communautés européennes s'y mettent. Si les communautés européennes s'y mettent, il est évident que Marseille peut retrouver une vocation de porte de l'Orient qu'il a perdue pour des raisons de stupidité et de vulgarité. Ça ne résout pas les problèmes multiconfessionnels. problème multiconfessionnel et le problème du fait que la France est désormais une société multiconfessionnelle et multiethnique ne peuvent être résolus que dans le cadre d'une Europe qui va gérer complètement différemment les statuts des minorités. Donc ça, c'est une question complètement différente. Là, je travaille en ce moment avec des gens de la cellule de prospective des communautés européennes, dans la mesure où la France, je disais tout à l'heure, est plus grand-chose, et qu'on s'achemine vers un État d'une forme particulière au Moyen-Orient. Moi, je peux vous dire, alors, là, c'est de la prospective, c'est pas Madame Soleil, qu'on s'achemine vers un État du juge en Europe occidentale, c'est-à-dire un État sous une forme tout à fait particulière de gestion. La loi européenne va se faire de plus en plus contre les lois nationales, donc il va y avoir de plus en plus de conflits, mais comme désormais les citoyens peuvent aller devant la Cour de justice directement, sans passer par leur propre État, le juge va trancher en faveur des droits des minorités, et assez curieusement, peut-être que l'État-nation, sous la forme que nous connaissons, va disparaître au profit, et je le regrette, des communautés, des minorités et de l'ethnicité. Ça veut dire que ce qui se joue au Proche-Orient est une sorte d'effet miroir à retardement historique de ce que nous, on est en train de jouer et qu'on n'a pas résolu. C'est le point sur lequel je voudrais insister. Comment nous permettons-nous de donner des leçons de morale ou d'éthique des droits de l'homme à l'humanité tout entière alors qu'on n'est pas foutu de résoudre le problème de la Yougoslavie et que nos militants basques, quoi qu'en pensent les uns et les autres, ont moins de droits que les militants kurdes qui intéressent Mme Mitterrand en Irak, mais pas en Turquie. Alors, tout ça, ça va faire un certain nombre de méli-mélo, et l'histoire fonctionne de cette façon-là. Il y a des apories, il y a des moments où ça ne peut plus fonctionner, et puis les solutions que les groupes sociaux trouvent quand ils sont confrontés à des défis sont à peu près jamais celles que prévoient les politologues, les anthropologues, non pas pour moi les anthropologues, mais jamais les politologues, mais surtout jamais les juristes. Ça, ça me paraît clair. Alors un scoop sur Abdelkader qui montre que le problème de l'État est quelque chose de compliqué. Tout le monde le glorifie d'avoir refusé le royaume arabe que voulait créer Napoléon III. Petite parenthèse, Napoléon III, grâce à Walewski, mais grâce aussi à tout un réseau de consuls et d'ambassadeurs qui connaissaient bien le pays, avait vachement bien compris la question d'Orient. On voulait déjà créer à l'époque un grand État dans le Bilad des Chams, c'est-à-dire en gros qui aurait compris la Syrie, une partie de l'Irak et la Palestine, mais pas la montagne, c'est-à-dire pas le Liban. Il y avait déjà des problèmes confessionnels ou des problèmes économiques. Mais Abdelkader a tellement peu, alors qu'il a créé un véritable État, a tellement peu le désir de la constitution d'un royaume. Alors c'est un scoop qui va faire plaisir à beaucoup de gens. En fait, il spéculait sur les terres en Galilée avec les Juifs. Pourquoi ? Parce que tout le monde oublie qu'une partie du problème palestinien vient du fait qu'il faut être sérieux, que la Palestine, ça n'existait pas. Mais pas plus que le Liban, pas plus que la Syrie, pas plus que l'Italie. Je veux dire, on est en 1860. L'Italie, c'est péjoratif dans aucun sens de dire que l'Italie s'est constituée en 1860. Eh bien, la Palestine n'existait pas en tant qu'État-nation. Il ne faut pas nous casser les pieds là-dessus. On a déjà assez donné avec l'Algérie et d'autres pays. Bon. Ça ne veut pas dire que ces États et ces pays et ces nations n'existent pas aujourd'hui. Je parle 1860. 1860, qu'est-ce qui se passe ? Ben les bourgeois, au sens de Dari, c'est-à-dire les urbains, face aux bédouins arabes. J'ai trouvé un rapport du père Cohen, le père Cohen, un jésuite au service du Vatican, qui dit « L'avenir, c'est les Bani Saoud ». C'est fabuleux, ça, hein ? Un rapport aux affaires étrangères. Mais comment fonctionnent les bourgeois ? Les gens des villes, dont est Abdelkader. Abdelkader, il est membre du magistrat, c'est sur la de la ville de Damas, il est membre du conseil municipal. Il a 12 000 hectares, le canal de Suez lui a donné une propriété à Ismaïlia, il a des propriétés, il a un hammam, il a des bains, il a des rentes. Aucun des gens de cette époque ne conçoit autre chose que l'espace libre. C'est tout. Il y a des villes et des bédouins et des structures de relations sociales entre ces groupes sociaux. Mais des frontières, un État, c'est pas sérieux. Alors pourquoi il spécule avec les Juifs ? Pas parce qu'il est sioniste. Parce que qui fait l'intermédiaire du marché entre les grands corps de métier et les grandes communautés au Moyen-Orient ? Les Juifs de l'Empire Ottoman. Ce qu'on appelle les Juifs de cour, les familles qui ont servi le roi du Maroc, comme celles qui servent le pape. Eh bien là, ce sont des Juifs ottomans qui qui en plus ont souvent plusieurs nationalités, ils sont citoyens britanniques, ils sont français, et Abdelkader, depuis l'Algérie avec les Ben Douran et les grandes familles de Gibraltar, jusqu'au moment où il traite sa propre traite avec l'État français, il passe par les grandes familles des Juifs de Salonique, de Smyrne, parce que c'est le commerce international qui fonctionne sur les lettres de crédit. Dernier point. Qu'est-ce que c'est que le drame de la Palestine ? C'est que du 19e siècle, là c'est 1860-1881, en 1883, il y a une guérilla entre les Algériens installés en Galilée et les Fellahin de Galilée. Pas entre les sionistes, entre les Algériens qui ont acheté des terres en Galilée. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la fin du 19e siècle, et quand va se constituer le Fonds national juif, les bourgeois de Damas, les bourgeois d'Alep, les bourgeois de Beyrouth spéculent sur les terres en Galilée et vendent jusqu'à 1925-26, vendent à prix d'or les terrains qu'ils occupent pas, ça s'appelle en arabe ekta, c'est-à-dire c'est des fiefs, l'équivalent de... Ils ont obtenu ça souvent dans les familles parce que leur grand-père était militaire ottoman. Je veux vraiment terminer sur cette histoire de spéculation. Il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, on est dans un changement complet. La richesse de la Syrie, du Liban, c'est la soie. Le commerce international se fait avec Manchester, avec Liverpool, avec Marseille. Il y a des ingénieurs de tous les pays. Abdelkader utilise des coopérants albanais. Mehmet Ali, et toute l'innovation, tous les tanzimats viennent de gens qui viennent de l'extérieur. Mais en même temps, les bourgeois propriétaires terriens vendent leurs terres avec des gens sur les terres. Une des origines du problème palestinien, c'est tout simplement que la bourgeoisie arabe a vendu les paysans. Mais comprenez ce que je veux dire, que personne ne soit choqué. C'était normal à l'époque. Tout le monde fonctionnait comme ça. Parce que c'est l'époque où, comme à Liverpool, ou comme dans l'ère Meiji au Japon, la bourgeoisie vend ses terres pour passer à l'industrie. Seulement, il se trouve qu'en Palestine, il y a des paysans sur les terres, et que les premières révoltes qu'on voit se constituer en Palestine... Alors, je dis déjà Palestine, parce qu'il ne faut pas oublier que le mot est d'origine biblique. Mais dans les deux cas, dans les deux, en turc et en arabe, ça porte d'autres noms. Dans les deux circonscriptions administratives que représente la Palestine actuelle, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des terres très riches, et les paysans ont un statut tout à fait particulier. Et les paysans protestent contre le fait que leurs lointains patrons les vendent en même temps que leurs terres. Et les premières bagarres entre les sionistes et les palestiniens n'ont pas lieu avec la gauche ou avec les modernistes, elles ont lieu avec les frères musulmans. Les premières grandes bagarres qui soutiennent les paysans palestiniens dans les années 23, 24, 25, 26 jusqu'à les grandes révoltes après, je suis désolé, j'allais dire, c'est la droite arabe. Donc il faut faire très attention quand on regarde et quand on visionne l'histoire à long terme. Moi je dis simplement que l'affaire palestinienne n'est que la fin d'un grand processus qui commence avec la guerre de Crimée et qu'on peut appeler le démembrement de l'Empire ottoman. Sur quel type d'acte juridique, et là je vais boucler la boucle et vous allez voir que quel est l'acte qui met à bas l'Empire ottoman, c'est le Hatih Humayunun, c'est-à-dire le décret qui fait que les sujets de l'Empire ottoman ne sont plus sujets religieux mais citoyens. Qui résiste à cette réforme moderne ? Les musulmans. Donc on est bien devant ce dilemme encore. On ne va pas revenir au statut de Dima de l'Empire ottoman. Et pourtant, tous les auteurs sérieux, il n'y en a pas beaucoup sur l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman a mauvaise réputation dans le monde arabe. Mais quand on lit les travaux, en particulier de notre vieux maître ici, Mantran, je rappelle que personne n'a dépouillé les archives de Topkapi, qui font 90 km de long. Donc les gens qui, à part Temimi, un professeur tunisien, et Mantran, tous les gens qui parlent de l'Empire ottoman ne peuvent pas être pris au sérieux. Temimi et Mantran nous disent quoi ? L'Empire ottoman, c'était une structure souple d'État, vachement astucieuse, qui fonctionnait sur ce qu'on appelait le millet, les kaïkamat, les vilayettes, bon, c'est-à-dire des systèmes emboîtés d'autonomie administrative et d'autonomie religieuse. Et bien là, peut-être que les Palestiniens ont à nouveau une mémoire collective là-dessus et qu'ils vont inventer quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que toujours ça a buté sur le croisement de deux éléments. L'apport du commerce extérieur sur les minorités religieuses. Voilà la clé. Ne me faites pas dire que la guerre du Liban, c'est une guerre religieuse, c'est pas ce que je dis. Mais l'apport, le croisement du fait que l'argent occidental a été la base du financement, j'allais dire, par la caution des minorités. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Alors aujourd'hui, on est devant un problème extraordinaire, c'est que les Palestiniens sont devenus les Juifs du Moyen-Orient. Je trouve que c'est assez intéressant comme perspective.
C'était l'Histoire continue et permanente, une émission réalisée par Éric Lebreux, Radio Galère, mars 2026.